Vers midi, j'ai ressenti un malaise moral profond, une grande peine, de l'ennui, de l'agitation. À gauche du bateau, des masses d'eau très élevées, certainement de plus de 20 mètres, formaient des vagues immenses, comme des montagnes d'eau mauve impressionnantes. Le bateau suivait le mouvement de ces vagues majestueuses, s'élevant et s'abaissant, suivant un rythme effrayant. Je me jetais sur le lit, et j'eus alors pleinement conscience de souffrir aussi physiquement. Mes cernes se creusèrent, et tout mon corps refroidit, comme pour le choléra. Mal de tête et malaise généralisé. La mer faisait un bruit terrorisant. Elle était toute noire. Voilà le spectacle.
Maria Montessori, l'insubordonnée de l'éducation. Une grande traversée de Johanna Bedeau et Marie-Laure Ciboulet.
Ce voyage de 1913 de Maria Montessori, elle l'effectue à l'invitation donc d'associations, enfin de particuliers américains, qui lui ont sans doute acheté son billet de voyage. C'est quelqu'un de très important à ce moment-là, Maria Montessori, c'est une invitée de marque. Donc ils lui ont acheté un billet de première classe sur le Cincinnati, qui est un magnifique paquebot, assez récent. Il est sorti des chantiers navals de Dantzig en 1909. C'est un magnifique paquebot qui fait la route entre les ports d'Italie et le port de New York. La durée de la traversée, c'est 12 jours. C'est un navire récent, donc il est construit en acier. Il est très solide, il est très stable. Très sécurisé, sécurisant en termes de résistance aux éléments maritimes. Voilà. Et puis, ça signifie aussi qu'il va être pourvu des derniers aménagements en matière de sécurité sanitaire, de confort. Donc, elle voyage sur un beau paquebot.
Troisième épisode, à la conquête du monde.
Les États-Unis, c'est une belle histoire parce que c'est l'histoire d'un pays qui perçoit le potentiel économique de cette histoire, c'est sûr, les écoles et tout. Deuxièmement, c'est l'histoire d'une élite financière et économique parce que c'est l'élite américaine qui perçoit ça, qui voit dans la méthode Montessori une façon de, disons, donner aux enfants des riches un énorme avantage. Et ça, c'est très américain, non, l'idée qu'il faut commencer à courir très vite et très fort. Et après, c'est aussi l'histoire d'un mouvement qui était très vif, mais qui s'est aussi cassé en deux. Il y a eu le Montessori officiel et le Montessori non officiel, parce qu'il y a eu une fracture très vite. C'est une histoire à part, je dirais, les États-Unis, aussi parce que c'est le pays qui lui a donné la notoriété mondiale. Une fois qu'elle a commencé à tourner les États-Unis, elle était déjà très connue, mais elle est devenue une star mondiale.
C'est en 1907 que Maria Montessori, devenue psychiatre, ouvrira sa première Casa dei Bambini à San Lorenzo, dans un quartier mal famé de Rome, où beaucoup d'enfants, faute d'avoir accès à l'école, errent dans les rues. Cette initiative marquera le début de son engagement pour une nouvelle approche éducative. C'est en voyant cette école si novatrice, subjuguée par tant de beauté et par l'observation de ses enfants, que les barons Franchetti, soutien indéfectible de Maria, l'incite à écrire sa pensée et ses observations pour que rien ne soit perdu si celle-ci venait à disparaître. Sous leur impulsion, Maria Montessori publie La pédagogie scientifique, un ouvrage rapidement traduit dans de nombreuses langues qui lui permettra de faire connaître ses découvertes à travers le monde entier. Très vite, c'est l'engouement. On vient de loin pour écouter la Montessori et assister à son premier cours international qu'elle donne à Rome, où elle commence à former de nouveaux enseignants. De Rome aux États-Unis, de Barcelone à Londres, Maria Montessori parcourt le globe sans relâche. Quand tu verras la terre promise, dira son amie la baronne Alice Franchetti, peu de temps avant sa mort. Moi, je ne serai plus là, mais tu dois continuer.
Il y a eu donc ce cours, le premier cours international officiel qui a duré donc de janvier à juin 1913 où la plupart des étudiantes étaient américaines.
Martine Gilsoul, chercheuse.
Ce cours a lieu dans sa maison à Rome, la grande maison donc sur la Piazza del Popolo.
Donc, dans son appartement, elle organise ce cours qu'elle compare à un tribunal international. Parce qu'elle se rend compte qu'elle risque beaucoup. Il y a environ 60 ou 70 Américaines, il y a des Australiennes, il y a un Indien, il y a quelqu'un du Japon. Pour elle, c'est le premier cours officiel. Il y a aussi des hommes politiques italiens, il y a la reine qui vient un jour. Donc, c'est quand même un cours d'une certaine importance. Et c'est la première fois qu'elle va un peu diffuser de manière structurée sa pensée. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'elle dit « ce cours est différent des autres, je vous demande de me donner une certaine liberté, enfin, il n'y aura pas de programme établi ». Et donc là, on voit aussi que c'est une pensée qui est en élaboration. Mais là, le premier cours, il est encore très différent des cours suivants. Il y a par exemple plusieurs leçons qui sont consacrées à comment on prend les mesures, donc toute cette anthropologie, donc l'anthropologie pédagogique qui après va disparaître. Et donc dans ce cours, il y a aussi toute une partie d'observation. Donc c'est une maison très très grande pour pouvoir accueillir presque 100 personnes dans son salon. Et à côté, il y a une petite école, donc dans une autre pièce, où les enfants manipulent le matériel Montessori pour que les étudiantes puissent, après les cours théoriques de Maria Montessori, puissent observer. Les étudiantes allaient aussi observer dans les écoles avec lesquelles Maria Montessori était encore en bonne relation, donc via Giusti. Et je pense qu'elle avait vraiment compris qu'il y avait urgence, qu'il fallait que ce soit elle qui forme les enseignants, parce que sinon, ça allait lui échapper. Parce que, par exemple, à Rome, la commune de Rome avait déjà ouvert et avait le programme d'ouvrir d'autres écoles, mais sans impliquer Maria Montessori. Parce qu'elle se rend compte qu'avec ce matériel qui est disponible à la vente, donc il est très facile, en lisant son livre, en achetant le matériel, beaucoup de personnes pourraient croire que ça suffit pour ouvrir une école Montessori. Et elle dit, mais non, il y a toute une formation. Elle insiste beaucoup non, sur le fait que l'enseignante doit être à la fois spirituelle, scientifique, et il y a des cours qui sont très poussés.
Ça doit être un moment crucial dans la vie de Maria Montessori. Elle récupère son fils qui a 15 ans, qu'elle avait placé à la naissance chez une nourrice, un fils qu'elle ne voit plus.
Et c'est un moment, en fait, qui n'est pas simple pour Maria Montessori, parce que sa maman est décédée fin novembre, début décembre 1912. Elle récupère son fils le 2 février 1913. Le cours commence en janvier 1913. Donc on voit qu'il y a une concentration de choses.
Seigneur, donnez-moi toutes les peines et laissez-lui toutes les joies. Amen. Que son avenir soit sûr, qu'il soit heureux et reçoive de nombreuses compensations pour ce qu'il a souffert. Je suis la seule qui lui donnera tout. Voilà, c'est pour cette raison que je marche et que j'endure tout. Tu me considères comme ta maman, mais pour moi tu es tout. Je n'ai que toi jusqu'à ma mort. Mon seul amour, mon chef-d'œuvre divin, mon préféré.
On sait, grâce à son journal de bord qu'elle écrit quand elle va aux États-Unis, on sait combien ça a été une souffrance, en fait, de ce choix auquel ça n'a pas été vraiment un choix. Je pense qu'elle a dû le subir. Et là aussi, on se dit, mais Maria Montessori qui proclame les droits, donc la femme nouvelle, et puis qui n'est pas capable de se rebeller par rapport à sa maman, qui l'a vraiment poussée, non, à faire cette carrière et à ne pas s'enfermer dans le mariage.
Et à abandonner son enfant, finalement, oui, aussi.
C'est clair. Ce qui est impressionnant, c'est de voir que Mario, donc, elle le récupère 6 semaines après le décès de Renilde, de sa maman. Non, Maria Montessori aurait écrit à son fils qui se trouvait au pensionnat, voilà, je suis ta maman, si tu veux me contacter. Et donc lui, il l'aurait contacté et comme ça, ils se sont revus. Il y en a d'autres qui disent que Maria Montessori aurait été à Arezzo pour voir son fils et que voilà, lui a dit « je suis ta mère » et il l'a suivi.
Il est monté dans la voiture.
Il est monté dans la voiture. Mais bon, là, on ne sait pas très bien.
J'ai beaucoup de sympathie pour Mario. Je pense que ça a dû être très dur d'être son fils, être à la hauteur de cette femme incroyable.
Cristina De Stefano, écrivaine.
Je pense que ça doit être très dur aussi d'être un enfant abandonné. Je trouve qu'il a été très ouvert. Ce jeune homme, il aurait pu dire « je reste avec mon père ». Tout m'a pas écrit pour 10 ans. Et à partir du moment où il se retrouve, c'est l'amour à vie. Hein. Marie et Mario, c'était inséparable. Elle le présentait comme neveu, quelquefois comme enfant adopté, mais en tout cas, il l'a jamais présenté comme son fils. Mais c'était un couple. C'était un couple. Il y a une photo d'eux aux États-Unis qui se semble sortie d'un film de Hollywood avec leur fourrure. Ils sont très semblables. Il y a beaucoup de ressemblances physiques entre eux. Tu vois tout de suite que c'est son fils.
J'ai vu mon enfant héroïque me dire au revoir et me réconforter depuis le quai. Il sautait de haut en bas, gonflait ses joues et criait « Je suis heureux !» Sa voix me parvenait même lorsque je ne le voyais plus. Finalement, le quai devint flou. J'ai été envahie par un fort sentiment d'affection pour toutes les personnes que j'avais laissées derrière moi. La bonté de Fédélie m'est apparue tellement plus claire et exceptionnelle et m'a remplie d'émotions. Toutes les personnes qui m'avaient quittée sont venues me dire au revoir. Avec moi, ils étaient conscients des choses incroyables qui allaient se produire.
La traversée de l'Atlantique, c'est bouleversant parce qu'elle vient de retrouver son fils après une douzaine d'années de séparation. Et en même temps, elle le requitte quelque part parce qu'elle part pour un très long voyage, mais cette fois, elle le laisse à sa famille, à ses proches.
Léa Todorov, réalisatrice.
Sa mère est décédée, donc elle le laisse plutôt à son père et à sa fidèle Anna Macaroni. Et en même temps, c'est très beau parce qu'elle s'adresse à lui comme à un tout petit enfant qu'elle aurait voulu choyer, qu'elle ne connaît. Voilà, elle découvre l'adolescent qu'il est, elle se projette dans la grand-mère qu'elle sera. Donc je trouve qu'on sent toute la blessure. Elle répète sans cesse cette phrase « À toi les joies, à moi les peines ». Je pense qu'on peut l'entendre de plein de manières différentes, mais pour moi, qu'est-ce que c'est ambivalent ou quoi ? Parce que évidemment qu'il n'a pas eu forcément toutes les joies et que les peines ont été pour lui aussi.
Que fait mon enfant en ce moment ? Peut-être parle-t-il de moi avec Fédélie ? C'est un être grand, j'ai ressenti son âme. Il est fort, doux, généreux, passionné. Il a une sagesse et un amour infiniment profond. C'est pour lui que j'ai vécu. Il est le créateur de tout ce qui se passe. C'est pour lui que tout cela se passe.
Elle voyage avec Samuel McClure qui a tout organisé, qui l'accompagne, qui est aux petits soins pour elle.
Évidemment, il y a un homme qui comprend que quelque chose se passe à Rome, parce que tout le monde va voir ce que Marie a fait à San Lorenzo, et qui lui propose d'être son impresario, carrément, avec un pourcentage dans les tickets et tout.
Elle ne décide pas toute seule d'aller aux États-Unis. C'est parce qu'il y a une proposition de ce manager Samuel McClure, qui comprend en lui qu'il y a du moyen de se faire de l'argent avec la diffusion de cette méthode. Et donc, elle part aux États-Unis comme une star, en fait, pendant 3 semaines. Et donc, dans ce voyage, elle vit quand même, elle est en première classe, dans des conditions très luxueuses.
Au total, l'espace que j'occupe est de 3,5 mètres sur 4,5 mètres. Ma cabine fait 3,5 mètres sur 3 mètres. Le reste est occupé par la salle de bain, etc. Inventaire de la cabine, 2 lits en laiton avec un sommier, un divan, un fauteuil.
Maria Montessori fait l'inventaire de tout ce qu'elle découvre comme aménagement.
Caroline Douki, historienne.
Très luxueux et très raffiné et très subtil.
Une petite table.
Puisque l'espace est quand même réduit.
Une armoire avec un miroir et une commode.
Les cabines sont, en première classe, sont plus ou moins vastes. Il y a des gens qui ont des suites.
Un évier.
Qui sont sans doute 10 fois plus grandes que la cabine de Maria Montessori.
Plusieurs porte-manteaux.
Mais l'aménagement qu'elle décrit relève quand même d'un luxe réel.
Des étagères enfilées.
D'un raffinement, de l'aménagement. Moi, j'imagine, puisqu'elle était attentive aux jeux de construction pour éduquer les enfants, qu'elle est très impressionnée aussi.
Un tapis de velours.
À la subtilité de la construction dans la cabine d'un bateau pour y faire entrer autant de commodités.
Avec l'eau chaude et l'eau froide. Un miroir, etc.
Donc tout est conçu pour qu'en première classe, ce soit l'expérience d'un voyage luxueux et féerique.
Ce n'est pas un voyage, c'est un régal.
La première classe, en général, elle est au centre du paquebot, parce que c'est là qu'on sent le moins les vibrations, les effets de l'état de la mer. Donc c'est éventuellement là qu'on a le moins le mal de mer. Mais enfin, en cas de tempête, tout le monde a le mal de mer. Et les ponts de promenade sont situés en général à au moins 20 mètres de la ligne de flottaison, ce qui permet de s'y promener sans recevoir les embruns ou les lames de mer en cas de mer agitée. Et donc, ça signifie que les gens qui se promènent sont en surplomb. Ce qui leur permet de voir ce qui se passe sur les ponts inférieurs, et notamment où il y a les immigrants de troisième classe. La troisième classe est plus bas, parce que là, c'est moins confortable. Il n'y a pas de communication d'une classe à l'autre. C'est pour des soucis d'ordre social et d'ordre moral que les passagers des classes supérieures ne doivent pas se rendre dans les espaces de troisième classe. Mais les passagers de première classe peuvent voir les passagers de troisième classe, notamment lorsqu'ils sont sur les ponts de promenade qui sont surélevés, ils peuvent les voir en dessous, où les immigrants se tiennent quand il fait beau pour profiter de l'air libre, se dégourdir les jambes pour que les enfants puissent aussi s'égayer un petit peu. Et même si les passagers de première classe ne voient pas les passagers de troisième classe, ils peuvent les entendre chanter, ils peuvent les entendre en train de se distraire, en train de parler fort lorsqu'ils jouent aux cartes. Ils peuvent les entendre jouer de la musique, puisque dans les catégories populaires rurales italiennes, on joue d'un certain nombre d'instruments de musique, à cordes. Voilà. Donc Maria Montessori, il est possible qu'elle, du pont des premières classes, elle voit les émigrants, elle les entende. Et moi, je me disais, elle a dû forcément regarder les enfants. Et donc, je me disais, Maria Montessori est quelqu'un qui a une certaine expérience de la diversité régionale italienne des enfants du peuple, puisque donc elle voit les enfants des faubourgs romains dans ses écoles. Elle voit sans doute, puisqu'elle s'y rend à plusieurs reprises, les enfants du peuple dans les faubourgs de Milan. Puisqu'à Milan, il y a deux écoles Montessori qui ont été inaugurées vers 1908. Donc elle les a vues, c'est les enfants du nord de l'Italie. Et puis aussi, il y a à partir de 1909, dans la Casa dei Bambini, l'accueil des orphelins du tremblement de terre de Messine, de Reggio Calabre. Donc elle a vu les enfants qui viennent de Sicile. Cette diversité régionale, elle la connaît. Mais en fait, ce sont les enfants des catégories populaires urbanisées. Je pense qu'elle ne connaît pas précisément les enfants qu'elle voit sur les ponts de troisième classe, sur les paquebots, parce que là, ce qu'elle découvre, ça va être les enfants des paysans du sud de l'Italie, ou peut-être du nord de l'Italie, mais enfin du sud de l'Italie, puis surtout les paysans du sud de l'Italie qui vont aux États-Unis. Donc elle voit des enfants de milieux ruraux, très pauvres, qui eux n'ont jamais vu les villes et qui peut-être s'amusent d'une manière particulière, parlent leur langue régionale. C'est pas tout à fait les mêmes.
Il est 23h30. Il paraît incroyable que ce magnifique palais se déplace si vite au milieu de la mer. J'ai déjeuné dans la spacieuse salle à manger, puis je suis allée dans la magnifique salle de lecture et me voilà maintenant dans ma grande cabine. Quel espace pour moi! Dans la salle de bain, il y a 3 magnifiques bouquets. Je me suis enfermée. Maintenant, je suis complètement libre dans mon appartement. On m'a apporté des livres de la bibliothèque et j'ai même une lampe électrique près de mon lit, ce qui me permet de lire allongée. De temps en temps, j'entends une cloche, comme si nous étions dans un petit village. Des chansons semblent venir de loin, mais me parviennent des émigrants de l'entrepôt. On entend presque tout le temps du piano et du violon. Un répertoire musical est proposé pendant le déjeuner, suivi d'un concert au salon. Mais maintenant, il fait nuit. C'est très calme. On n'entend que le bruit des objets qui bougent à cause d'un léger tremblement. Je me sens très bien et calme.
Il faut savoir que même si il y a beaucoup de luxe, de raffinement, de choses à découvrir, d'espaces de sociabilité, qu'elle peut rencontrer tous ces gens en première classe, qu'elle peut éventuellement prendre un peu de temps pour regarder ou écouter ce qui se passe en troisième classe, En fait, c'est long, 12 jours dans un espace limité, confiné, donc il faut bien s'occuper. Et c'est un temps qui est très propice, surtout pour les femmes qui en ont l'habitude dans l'élite, à l'écriture de soi, à l'écriture de son journal. Il y a des espaces organisés pour ça, des salles de lecture, des salles d'écriture où on fait sa correspondance et où éventuellement on écrit.
Mon Dieu, je n'aurais jamais, mais alors jamais, imaginé ce qui allait se passer. Je ne suis plus la même personne que d'habitude. Ce qui se produit ici est extraordinaire. Des personnes sont venues de loin pour me saluer à mon arrivée. À 6 heures du matin, ils étaient très nombreux à embarquer pour rejoindre le Cincinnati en mer. J'étais encore en pleine mer quand on me donna une quantité incroyable de lettres et de télégrammes. 5 photographes étaient là pour me prendre en photo, ainsi que 10 ou 12 journalistes. On m'a informé que j'étais attendue par le consul italien et plusieurs représentants officiels accompagnés de leurs épouses. En effet, il y avait le représentant de l'association Dante Alighieri, un comité d'émigrés du bureau d'éducation de New York et une 20aine de mes ex-étudiantes venues parfois de très loin. Une voiture majestueuse était à ma disposition. Je t'écris du grand hôtel, entouré de journalistes et de photographes. Le président Wilson m'a communiqué que demain, jeudi, il m'attend à Washington. C'est sur cette nouvelle incroyable que je t'embrasse.
Elle débarque à New York. Elle est acclamée comme une reine, il y a le tapis rouge, enfin, c'est vraiment, ses élèves sont là, un groupe d'élèves est là, enfin, c'est vraiment un accueil triomphal. Des journalistes l'accompagnent tout de suite à l'hôtel, elle est tout de suite, et elle est à son aise parce qu'elle aime ça. Elle aime être au centre de l'attention, elle a besoin d'être adorée en quelque sorte, non ? Et en même temps, parfois, on a l'impression qu'elle récite un peu comme un personnage de théâtre. Moi, je l'imagine très bien avec ses toilettes, ses fourrures et tout le monde qui est aux petits soins pour elle. Et quand on regarde les journaux, en fait, on voit vraiment le compte-rendu. C'est comme une tournée. Donc, on sait comment elle est habillée, où elle va, qui est présent aux réceptions. On suit vraiment Maria Montessori pendant 3 semaines. Elle rencontre la fille du président Wilson. Elle a des réceptions dans des énormes hôtels.
C'est un cirque médiatique autour de la femme la plus importante d'Europe, comme elle disait McClure, Samuel McClure. Et en fait, Samuel McClure est très important dans cette première tournée parce que lui, il remplit les salles. Carnegie Hall, ça veut dire que Maria Montessori fait vraiment une tournée triomphale, je dirais, avec l'interprète et tout. Interprète, jolie fille qui deviendra évidemment Hélène et après Adèle, des disciples.
Il y a donc la salle Carnegie Hall où on prévoit une conférence. En fait, on dit qu'il y a plus de 1000 personnes qui ne peuvent pas rentrer et donc on en programme une autre quelques jours après.
Très vite, elle rencontre le succès. Quand on se dit ça, ça veut dire que en face, il y a des gens qui comprennent ce qu'elle dit aussi.
Sylvain Vagnon, historien.
Parce que aller franchement un soir écouter une Italienne, alors qu'on est à New York, et puis qui va vous parler de ce qu'elle fait à Rome, et puis vous remplissez, etc. C'est pas simplement, parce que vous avez envie d'y aller. Il y a un charisme très fort, mais je crois qu'il y a un intérêt aussi international sur les pédagogies, justement, dites nouvelles, et elle l'incarne.
Premier voyage aux États-Unis, décembre 1913. Maria Montessori est acclamée aux États-Unis. Elle rentre en Italie le 4 janvier 1914. Il y a un décret royal sur l'organisation des jardins d'enfants. Ce décret royal stipule qu'il est interdit en Italie, à l'école maternelle, d'enseigner à lire ou à écrire, parce que ça ne correspond pas à la nature de l'enfant italien.
Il n'est pas possible de sortir des indications de la méthode Froebel, dont les applications modérées sont adaptées au tempérament de l'enfant italien. Jardin d'enfants n'est pas encore une école. L'enfant vit presque exclusivement d'expériences sensorielles et de fantaisie. Il ne ressent pas encore le besoin de communiquer avec le monde, autrement que par les sens et l'action. Il n'a pas besoin de lire, d'écrire, ni de calculer. Il est donc erroné et dangereux, voire coupable, d'occuper précocement l'enfant avec des exercices du programme scolaire proprement dit. Dans nos institutions, il est donc interdit d'enseigner suivant n'importe quel système, à lire et à écrire, à réciter par cœur des petits discours, des dialogues et des poésies.
C'est un camouflet, en fait, pour Maria Montessori, parce que c'est vraiment dire « votre méthode ne correspond pas à ce que nous voulons en Italie pour nos enfants ».
Donc vous ne pourrez pas déployer votre méthode.
Voilà, c'est vraiment ça. Alors que le ministre de l'Éducation était Credaro, qu'elle avait connu à l'université. Et donc, dans ce décret, on souligne que c'est la méthode des sœurs Agazzi qui correspond le mieux à la nature de l'enfant italien. Et donc là, Maria Montessori comprend vraiment que les temps ne sont pas un mur pour elle, quoi. Et donc, vu qu'à Barcelone, il y a une demande officielle d'organiser un cours, d'ouvrir une école, eh ben, elle répond à cette demande. Et donc, elle quitte l'Italie. Dès 1914, en fait, sa résidence principale est à Barcelone. Et donc, il y a un cours de formation d'enseignantes internationales, donc sur le modèle de ceux, des deux qui avaient déjà été organisés en Italie, qui est organisé à Barcelone. Et surtout, il y a cette maison des enfants qui a été créée par des pères où étaient recueillis aussi des enfants orphelins. C'est une expérience très importante pour Maria Montessori, parce qu'avec Anna Maria Maccheroni, ça va vraiment être aussi une expérience au niveau de la foi catholique. Où donc elle va se rendre compte de l'importance de la liturgie et que si on voulait répondre aux besoins spirituels des enfants, c'était pas tellement à la manière classique du catéchisme qu'on pouvait le faire, mais que les enfants avaient besoin d'agir avec leurs mains, enfin qu'ils avaient besoin d'expériences sensorielles et que donc la liturgie était vraiment une école de vie pour les enfants. Et donc, quand elle retourne aux États-Unis en 1915, elle ira cette fois-ci sur la côte ouest. En fait, elle part avec son fils Mario. Elle a peur avec les déclarations de guerre. Voilà, donc elle a peur qu'il ne soit appelé à faire son service militaire et donc à devoir combattre. Donc, elle le prend avec. Et on a des très belles lettres qu'elle écrit à son papa, qui est assez âgé, qui est resté avec Anna Fedeli et Luna Olivero.
Cher papa, je vous écris sur une feuille de papier qui vous fera vous demander « Où est Maria ?» Dans le train de Chicago à San Francisco. Je suis dans le salon, assise à mon bureau. La bibliothèque et la machine à écrire sont à proximité. Et sur la table à côté de moi, il y a un téléphone. Je viens de rentrer de la voiture panoramique où, après le déjeuner, j'ai passé un long moment allongé sur un fauteuil inclinable recouvert de velours vert à regarder défiler les plaines infinies, vastes comme l'océan.
Et en fait, ce voyage aussi, c'est un peu la vie de Maria Montessori. On voit qu'elle part, mais en même temps, elle va rester beaucoup plus longtemps que prévu parce que sur place, elle va se rendre compte qu'il y a de nouvelles possibilités. Donc il y a par exemple, elle partait pour faire un cours entre Los Angeles et San Diego. Et puis après, quand elle est là, elle se rend compte qu'il y a cette exposition universelle, un grand rassemblement d'enseignants américains. Et donc elle se rend compte que là, c'est une opportunité pour elle de pouvoir parler à autant de personnes réunies. Et donc elle décide de rester.
C'est important de voir à quel point étaient cruciales ces expositions universelles avec ce triptyque. Présenter la modernité économique, la modernité technologique, permettre l'émulation et la compétition des productions artistiques des différents pays, ça c'est le deuxième trait. Et troisième trait, ce sont vraiment des lieux de présentation, de discussion, des expériences de réforme sociale, donc qui sont montrées de manière très pratique, exposées et qui sont discutées. Très souvent, aux expositions internationales, se tiennent en même temps des conférences, des congrès scientifiques, des congrès de sciences sociales. Et les expositions universelles, ce sont des lieux et ce sont aussi surtout des moments de discussion, de circulation de l'innovation en matière technologique, économique, artistique et sociale. Ce qui va permettre de compenser, d'atténuer les effets négatifs du capitalisme et de la modernité. Donc on y débat de protection sociale, d'enseignement pour les milieux populaires, d'enseignement professionnel, etc.
Il y a tout de même eu
à l'exposition universelle de San Francisco en 1915 une classe de verre, c'est-à-dire une classe Montessori qui était présentée au sein de l'exposition universelle et qui a gagné le premier prix.
Charlotte Poussin,
donc il y avait
auteur.
Une immense salle, des murs en verre, sans teint, donc les enfants ne se sentaient pas observés, mais toute l'exposition universelle défilait autour. Et il y avait une enseignante qui présentait du matériel à ses enfants dans cette classe et les enfants qui évoluaient, qui venaient tous les matins faire classe dans l'exposition universelle. Et enfin, il y avait quelque chose de très nouveau et de fascinant, en fait, puisque sans aucune forme de cours didactique, tous les enfants apprenaient à lire, à écrire, à compter, à comprendre le système décimal, à comprendre les opérations, à comprendre les fractions, les racines carrées, enfin, grâce à du matériel mis à leur disposition qu'ils utilisaient comme des jeux.
Ce n'étaient pas des enfants qui fréquentaient une école Montessori avant. Donc c'est des enfants qui ne se connaissaient pas, qui se sont retrouvés ensemble avec un matériel qu'ils ne connaissaient pas. Et tout de suite, ça a marché, on va dire. Et il y avait beaucoup de visiteurs qui arrivaient très tôt le matin pour être sûrs d'avoir une place pour regarder les enfants travailler. Et au début, l'horaire était assez réduit. Je pense que c'était seulement le matin. Et puis en fait, ce sont les enfants qui ont dit « mais nous voulons rester l'après-midi ». C'est encore une preuve que cet environnement, avec ce matériel, répond vraiment à un besoin des enfants.
La diffusion massive de la pédagogie Montessori et le succès qu'elle a eu est due, certes, à son regard sur l'enfant, etc.
Bérangère Colli, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation.
Mais est due aussi, peut-être, en partie, à ce que ça donnait comme possibilité pour un certain nombre de femmes, d'un milieu social sans doute aisé, qui pouvaient s'emparer de cette méthode et à partir de là, créer des écoles, prendre des responsabilités, voyager, traduire des conférences.
Il y a des jeunes filles qui sont vraiment fulgurées. C'est une époque où pour les femmes, il n'y a rien à part se marier. Et pour plein de jeunes filles intelligentes et brillantes de bonnes familles américaines, la rencontre avec Maria, c'est la rencontre de la vie. Ça veut dire pouvoir faire quelque chose de ta vie, pouvoir être dans le militantisme. Et alors, il y a vraiment des filles qui s'enfuient de la maison pour la suivre. C'est quand même des jeunes filles avec des fonds qui suivent des personnages charismatiques. Alors, toute une série d'élèves américains qui viennent de familles très, très riches. Alors, quelquefois, elles sont déshéritées par les familles, mais là, quand même, des élèves qui financent beaucoup son mouvement.
On est à une époque, début du XXe siècle, où, de manière parfois très discrète, d'autres fois de manière plus visible, les rapports de genre entre hommes et femmes sont en train d'être bouleversés. Les femmes se déplacent de plus en plus. Ces habitudes de mobilité sont très communes pour toutes les femmes de l'élite qui sont impliquées, qui sont mobilisées dans la résolution des questions sociales qui se posent au début du XXe siècle. Donc ces femmes de l'élite qui, en fonction de leur culture, en fonction de leur sens des responsabilités morales, ont envie de s'engager sur les questions qui visent à réformer, pas combattre, mais qui visent à réformer le capitalisme industriel et urbain qui fait des ravages dans les catégories populaires. Donc certaines se sont engagées dans la voie de l'instruction, de l'éducation, l'éducation nouvelle, comme le fait Maria Montessori. D'autres s'engagent dans l'encadrement des enfants des milieux populaires. D'autres s'engagent dans tout un tas de chantiers humanitaires, dirait-on aujourd'hui. Et ces femmes, donc, qu'on appelle réformatrices sociales, qui existent dans tous les pays d'Europe, enfin du monde occidental, d'Europe, d'Amérique, ne cessent à la Belle Époque, enfin entre la fin du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale, ne cessent de voyager pour échanger leurs expériences, pour discuter entre elles de leur expérience, puis aussi pour se conforter dans leur engagement. Et on ne peut pas dire que ça soit mal vu, puisqu'il s'agit de femmes de l'élite, puisque ça se fait dans des formes qui sont quand même, sinon instituées, en tout cas bien organisées. Ce faisant, enfin, elles font quand même quelque chose qui est en train de déplacer les frontières du genre entre hommes et femmes, parce que elles sortent complètement de la sphère domestique. Donc ces femmes qui, dans un grand nombre de pays, n'ont pas encore la pleine citoyenneté politique, c'est le cas de Maria Montessori, les femmes en Italie, comme en France à la même époque, l'époque, etc., n'ont pas le droit de vote politique. Et donc, c'est pour ça que ces femmes de l'élite, qui ont envie de prendre des responsabilités sur les questions collectives, elles ne peuvent pas le faire par la voie directement politique, donc elles le font par la voie de l'action sociale. Et très souvent, ce qu'elles font, c'est qu'elles agissent pour le bien collectif dans ces questions sociales en partant des qualités typiquement féminines que les hommes leur reconnaissent. Et les qualités typiquement féminines, hein, entre guillemets, c'est des qualités domestiques, et notamment éduquer les enfants.
À l'époque, elle est quand même entourée en Italie par plusieurs femmes de l'aristocratie qui ont leurs entrées à la cour, et donc elle va être très soutenue par des personnalités qui ont aussi des moyens, et donc qui vont lui ouvrir des portes qu'elle seule n'aurait pas pu franchir. Le fameux appartement sur la place du peuple, elle va pouvoir le louer parce que la reine va la soutenir financièrement. Faut pas oublier qu'elle vivait de la diffusion de sa méthode. Elle vivait des droits d'auteur, des livres, des inscriptions courtes parce qu'elle n'avait pas d'autres sources de revenus et elle avait la famille de son fils à sa charge.
C'est pas du tout une femme pratique, c'est pas du tout une femme qui est capable de parler d'argent, elle est nulle de ce côté-là, mais quand même, elle met en place rapidement un système qui marche très bien. Ça veut dire les deux sources de subsistance pour Maria, d'argent aussi, qui à un certain moment est beaucoup d'argent, c'est la formation des profs et le matériel didactique. La formation, parce qu'elle fait des cours internationaux, elle bouge dans tous les pays et évidemment on paye pour suivre ses cours. Et le matériel, parce qu'elle, rapidement, elle, très vite, elle enregistre le copyright industriel de son matériel. Ça veut dire personne ne peut produire ce matériel sans sa permission. Elle fait des accords avec des entreprises en Italie avant et aux États-Unis et après en Allemagne, à l'étranger. Et elle touche un pourcentage pour chaque set de matériel vendu. Chaque fois qu'on ouvre une école Montessori, c'est une nouvelle source de... Et ça devient plutôt important. Elle devient une femme riche, même si elle a toujours, j'ai vu dans plusieurs lettres, elle a toujours un rapport à l'argent très libre, très anarchique. Elle est une personne qui dépense tout ce qu'elle a, et c'est pas du tout une personne qui est dans l'investissement financier. Mais, et ça, je trouve, c'est une histoire incroyable, dans les années 30, elle perd tout. Elle perd tout parce qu'un avocat qui s'occupe de gérer son argent à Rome fait faillite et part avec son argent et l'argent de beaucoup d'autres. Là aussi, on voit le passé catholique. Elle investissait avec cet avocat qui était un peu l'avocat de tous les ordres religieux de Rome. Mais elle perd tout et je trouve que ça, c'est aussi intéressant parce que la dernière partie de sa vie, elle n'est pas une femme riche. Elle revient un peu au départ et elle s'occupe de développer ses idées. Mais elle n'est pas du tout dans le discours argent, elle est dans le discours, comme j'appelle, cosmique.
C'est la maison où je ne suis plus la fille, mais la mère. Mes filles sont liées à moi et moi à elles pour toute la vie. Pour une œuvre à laquelle nous avons offert nos existences. Cela semble peu de choses, mais c'est extraordinaire. Elles ne sont que trois, mais quel miracle de trouver trois âmes qui se fondent avec moi pour m'aider dans la voie laborieuse de la construction. Elles ont renoncé à tout et ne sont rien d'autre que mes disciples.
La marquise Maraini sera en fait sa grande amie. Parce qu'avec la mort de Alice Franchetti en 1911, je pense que Maria Maraini, de 1908 jusqu'à la fin de sa vie, Maria Maraini meurt en 1950, c'est la seule amie fidèle de Maria Montessori.
À qui elle écrit tout au long de sa vie, quand elle est aux États-Unis, quand elle est en
quand
Inde.
Quand elle est en Inde, quand elle est en Hollande. Donc, elles s'écrivent beaucoup. Et je pense qu'à Maria Maraini, elle sait qu'elle peut tout dire. Et en même temps, elle sait qu'elle a besoin de Maria Maraini, parce que Maria Maraini avait une intelligence beaucoup plus pratique. Elle savait comment évoluer en société. Elle avait des contacts avec les ministres. Et donc, souvent, Maria Montessori va demander à Maria Maraini, même quand elle ne sera pas en Italie dans les années 20, d'aller parler avec le ministre, d'essayer d'arranger certaines problématiques.
Je m'appelle Andrea Maraini.
Comment s'appelait votre grand-mère ?
Elle s'appelle Maria Guerrieri Gonzaga, qui a épousé mon grand-père qui s'appelait Clemente Maraini. Elle s'est occupée toujours de bienfaisance. Elle a connu la Maria Montessori parce qu'elles avaient le même âge. Je crois un an de différence, mais avevamo una tenuta, come si dice.
On avait un domaine.
Un domaine, oui, à Montoux, qu'elle venait de ma grand-mère.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de votre grand-mère ?
Elle était une femme, pour l'époque, très en avance.
Très en avance sur son époque ?
Sur son époque, oui. On ne peut pas dire qu'elle était féministe, mais à peu près. Pour l'époque, oui, elle participait à quelle époque c'était dans les congrès delle donne.
Elle participait à ce qu'on appelait les conférences pour les femmes. Elle participait à toutes ces choses et il est vrai que mon grand-père n'en était pas très content.
Il y a une lettre que mon grand-père a écrite à Maria Montessori pour lui dire que ma grand-mère devait rester à la maison et pas s'occuper de ces questions. Je l'ai dans les photos. Allora, la lettre est datée Roma, 11 maggio.
La lettre est datée à Rome le 11 mai 1913.
Gentilissima signora, la prego di fare in modo che la
sua madame, je vous prie de faire en sorte que votre amitié trop envahissante pour Maria ne dérange pas le fonctionnement de ma maison.
Della mia casa. Maria è di carattere eccessivo e trascura me.
Maria a un caractère excessif et me néglige ainsi que ses devoirs domestiques et le respect des heures pour se donner uniquement aux œuvres auxquelles vous vous dédiez. Quand on est marié, on ne peut pas disposer de soi comme vous pouvez le faire, vous qui êtes libre de toute attache. Je vous dis tout ceci afin d'éviter de futures tensions.
Affectionatissimo Clemente Marain. Elle s'aimait beaucoup et condividevano queste visioni.
Et partageait cette vision de l'éducation des enfants.
L'éducazione dei bambini.
Maria Montessori, elle demandait tout. Il fallait qu'on se donne totalement à ses idées, à sa manière de penser, à sa manière de vivre. Et à un certain moment, elle le dit dans son projet de famille religieuse. Celles qui veulent me suivre doivent tout donner. Elle avait quand même un très fort caractère, elle était quand même un peu autoritaire. Alors il y a une élève de troisième génération, italienne, qui m'a dit « Mais Maria Montessori, elle disait à chacune de ses élèves qu'elle était la meilleure, chacune le croyait, et puis quand elle parlait entre eux, elle se rendait compte qu'elle le disait à tout le monde. » Mais ça dit quelque chose, donc elle avait besoin de s'attacher à ces personnes, en disant « T'es la meilleure, donc travaille bien pour moi. » Parce que c'était des personnes qui ne se sont pas mariées, qui ont donné vraiment toute leur vie. Elle les envoyait. Giuliana Sorge, elle suit le cours de Maria Montessori en 1926. En 1927, Maria Montessori l'envoie en Argentine et au Chili pendant un an. Et donc, c'est des filles qui partent tout de suite à l'appel de celles qu'elles considèrent comme mammolina, non?
Je t'assure que nous n'avons pas une minute. Je me lève avec le soleil et ce n'est qu'à minuit que je trouve le temps de vous écrire. Mais notre groupe est très plaisant. Montessori sourit toujours et semble contente.
La seule possibilité d'être un disciple de Maria Montessori toute sa vie, c'était d'être complètement à son service. Il y a quelque chose de, là aussi de religieux, je trouve. Elle est comme une abbesse d'une ordre religieux, et les filles qui sont avec elle tout le temps sont des filles qui la considèrent comme un chef spirituel. Alors, si tu fais ça, c'est toute la vie. Si tu montres un peu plus de indépendance, ou même d'idée, de dire créativité, de dire pourquoi on ne fait pas ça, c'est plus compliqué que ça.
En tout cas, ce qu'on voit dès le début, c'est qu'elle formait des gens qui ensuite diffusait sa pédagogie et lui posait des questions. Il faisait des retours de pratique, par lettre notamment, et ces retours de pratique lui permettaient aussi de mieux affiner, de mieux, comme une espèce de dialogue constant qui lui ont permis aussi d'affiner, de mieux comprendre certains problèmes aussi. Donc quand même un aller-retour entre théorie et pratique, même si elle n'enseignait plus, enfin elle n'éduquait plus, je sais pas comment on peut dire, parce qu'enseigner c'est pas tout à fait un terme adapté. Donc les collaboratrices ont aussi servi à ça. Il y a aussi tous ces collaborateurs et collaboratrices qui ont créé du matériel aussi. Il y a eu des créations de matériel, notamment en mathématiques. Le matériel qui est venu s'agréger en fait au matériel existant. Il faut aussi se dire qu'il y a des personnes qui s'approprient la méthode et qui montent leur propre jardin d'enfants, en fait. Par exemple, la première maison des enfants en France, elle est rue du Général Tripier en 1911. Donc ça veut dire que 1909, c'est la pédagogie scientifique. 1911, à une époque où on n'a pas Internet, où on voyage quand même plus difficilement, eh bien en 1911, on a une école Montessori qui... Enfin, une école, un jardin d'enfants Montessori qui ouvre. Donc ça veut quand même dire qu'il y a eu une... Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui se sont appropriées cette pédagogie et qui l'ont diffusée.
Je pense qu'elle était aussi souvent en difficulté. Elle ne savait pas à qui pouvait faire confiance. Maria Montessori n'accepte pas facilement que quelqu'un s'approprie dans le sens de changer quelque chose, par exemple, adapter un pays, une culture. Elle a cette contradiction, hein, parce que c'est une contradiction, de dire « ma méthode est basée sur l'observation de l'enfant, mais d'une certaine façon, c'est seulement elle qui peut observer l'enfant et tirer des conclusions ».
Elle ne supportait pas de manière générale qu'on fasse sans elle, mais on est tous pétris de contradictions. Pareil, j'ai émis l'hypothèse que peut-être il y avait une sorte de stratégie de la tenaille d'une certaine manière, c'est-à-dire d'un côté on diffuse très très fort en faisant des livres très grand public d'une certaine manière, des formations, des conférences, donc on diffuse très largement, et de l'autre côté on essaie de garder pour un petit réseau, souvent assez fermé, une qualité pédagogique irréprochable. C'est ce que j'ai essayé d'appeler la stratégie du double gain, c'est-à-dire on y gagne des deux côtés. D'un côté, on essaie de faire de la grande qualité avec peut-être un tout petit nombre de disciples, mais on voit déjà le problème, c'est-à-dire ça va être ceux qui sont les vrais disciples et puis ceux qui ne sont pas des vrais, d'une certaine manière. Et de l'autre côté, une grande diffusion le plus possible pour essayer aussi de changer le regard qu'on porte sur l'enfance.
Christina De Stefano, qui sont ces gens qui s'approprient sa méthode ?
Chaque pays a sa spécificité. Aux États-Unis, c'est plutôt les impresarios, c'est le business. En Angleterre, c'est l'université, c'est l'académie. En France, c'est pas facile. Il y a une vraie résistance, surtout parce qu'on l'aperçoit comme religieuse. Mais c'est les théosophes, je dirais. Et si on doit résumer, en Allemagne et en Autriche, c'est le monde socialiste. Les juifs aussi, beaucoup de juifs sont dans ce mouvement. En Inde, il y a les théosophes encore. Ça veut dire que chaque pays réagit de façon différente par rapport à son chimisme, on peut dire. Et il y a l'Amérique du Sud aussi. Et Maria Montessori, chaque fois, doit s'occuper de ça. Quelquefois, ça passe bien. Par exemple, je dirais l'Angleterre, c'est le pays le plus pragmatique où elle a quand même une longue tradition de conférences et de formations. Il y a l'Espagne, la Catalogne, avec la tradition libertarienne et catholique. Et dans chaque pays, Maria Montessori essaye d'implanter son mouvement. C'est pas toujours facile.
Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de stratégie volontaire de diffusion de la pédagogie en France avant la fin des années 30. Donc avant la fin des années 30, ce sont des éducatrices qui s'emparent de cette pédagogie. En fait, comme souvent, elles s'emparent de cette pédagogie. Et comme il n'y a pas de réseau montessorien structuré à l'époque, puisqu'il faut attendre 1929 pour avoir la création de l'association Montessori Internationale, et que, vu l'époque, il n'y a pas de mainmise d'une certaine manière. Les choses se font un peu spontanément, mais c'est encore le cas d'ailleurs. Ce sont des éducatrices qui s'en emparent et qui créent leurs écoles, qui créent même des fois leurs formations. Et c'est pas une stratégie volontaire de la part de Maria Montessori. C'est plutôt des personnes qui mettent en place la méthode et ensuite vont voir Maria Montessori ou envoient une lettre à Maria Montessori en disant « Regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est le cas notamment de Marie Cromwell, qui est donc une Américaine qui vient sur le sol français, qui hérite d'une fortune et qui va outiller un certain nombre d'écoles du matériel montessorien dans l'optique que ça se diffuse. Il semble que ce soit Marie Cromwell qui ait donné l'idée à Maria Montessori de créer un réseau qu'elle appelle le réseau de la Croix-Blanche, qui aurait été, je dis aurait été parce que ça n'a jamais eu lieu, qui aurait été un réseau parallèle à la Croix-Rouge, où la Croix-Rouge s'occupant d'une certaine manière du corps et la Croix-Blanche s'occupant du psychisme ou de l'âme au sens très très large du terme, pas du tout spirituel du terme, mais le fait d'être traumatisé par exemple, le fait d'avoir besoin de soins psychiques. Et là, on voit la marque de la médecin qui travaillait aussi en clinique psychiatrique. Et ce réseau de la Croix-Blanche, elle essaie de le monter et en fait ça fonctionne pas. Mais Marie Cromwell a donc diffusé sur le sol français, ça a été un premier essai de diffusion de la méthode. Et en cela, elle a vraiment favorisé la diffusion et la connaissance de la pédagogie Montessori. C'est une vraie pépinière d'écoles qui vont se créer dans les années 20 et les années 30. On peut dire qu'il y a vraiment un âge d'or de la pédagogie Montessori. en France. C'est normal, il y a aussi un air du temps et la pédagogie Montessori faisait aussi partie de l'air du temps.
L'éducation nouvelle, c'est un courant de pensée qui apparaît à la fin du 19e, début 20e. C'est aussi ce courant qui va repenser, enfin qui va créer plutôt en réalité, la psychologie de l'enfant, parce que ces gens, Ovide de Croly, Maria Montessori, finalement, c'est des psychologues, hein, qui vont servir de leur intuition. Et puis, c'est
aussi
des médecins, bien sûr, des médecins, les deux. Et c'est important, effectivement, c'est même primordial. Puis ensuite, c'est un mouvement qui voit en réalité les États faire des systèmes publics, qui ont pensé une école pour tous, c'est-à-dire en réalité obligatoire, et ça c'est un effet fondamental, mais qui n'a pas vraiment pensé le contenu, qui n'a pas vraiment pensé l'individu. Et eux vont s'intéresser avant tout à l'individu, aux enfants d'ailleurs, on ne dit pas des élèves, mais des enfants. Et donc c'est là où, par leurs observations, par le côté très clinique des fois, d'observation de ces enfants, ils vont justement, à mon avis, là, véritablement renouveler les choses en pensant le rythme de l'enfant, les besoins de l'enfant, l'intérêt de l'enfant, avant de penser à l'intérêt de l'État. Donc ça fait un mouvement voilà, qui a des convictions très fortes, il peut avoir des désaccords, mais en tout cas qui a des convictions très fortes, qui se développent, et puis évidemment qui a des moments forts, hein. Quand on a la Première Guerre mondiale, c'est quand même une rupture majeure, et on sait que donc on a échoué, puisqu'on est allé à la guerre mondiale, c'est un effet majeur. Effectivement, c'est reconstruire ces pays sur aussi des valeurs, hein. Ils y mettent aussi dans l'éducation des valeurs d'altruisme, d'entraide, de coopération, on dirait aujourd'hui, pour justement lutter contre ce qui s'est passé à la Première Guerre mondiale. Donc l'éducation nouvelle va se développer à partir de 1920 et va se structurer en Europe de façon extrêmement forte. Alors elle se structure de façon, j'allais dire, assez simple, c'est-à-dire qu'elle va faire une Ligue internationale de l'éducation nouvelle à partir de 1921 à Calais. Calais, c'est un congrès, on va dire, très particulier, parce qu'il dure quand même 3 semaines. Et l'idée, c'est mieux de se connaître, de voir que finalement, on a tous pensé à peu près au même moment des choses similaires. Fin des années 20, on a des congrès quand même qui peuvent aligner 800 personnes, hein, donc ça commence à devenir extrêmement important. Ils sont une centaine quand même en 1921. Un des pédagogues qui s'appelle Ferrière, qui est du côté helvétique, hein, il y a beaucoup du côté genevois, donc il y a Ferrière et Claparède, et tous les deux parlent d'une révolution copernicienne. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est vraiment, on change le paradigme, on passe pas simplement de l'enseignant vers l'élève par le savoir, mais on va passer par l'élève. C'est l'élève qui va être finalement la force, hein, ici. Donc on retrouve des idées qu'on retrouvait des Rousseau, hein, mais là, justement, ils essayent de le structurer. Et je pense que l'éducation nouvelle a cette force, c'est dans les pratiques. C'est presque pas trop nécessairement dans des grands principes, mais c'est dans les pratiques. Ils vont, par l'observation, essayer de trouver des solutions pour rendre cohérent ce qu'ils sont en train de dire. C'est comment l'enfant peut être, on dirait aujourd'hui, acteur de ses apprentissages. Et c'est pour ça que tous se retrouvent dans ce qu'on appelle des méthodes actives. Montessori est présente, pas toujours physiquement, mais en tout cas, elle amène des émissaires dans ses congrès, hein, qui ont lieu quand même tous les 2-3 ans.
Pour ce congrès à Calais, qui est en 1921, le congrès pour l'éducation nouvelle, Maria Montessori est attendue et elle ne vient pas. Elle envoie finalement des collègues à elle qui vont faire une démonstration pour tout le monde, mais elle est déjà à l'époque, en 1921, une superstar par rapport à tout le monde. Donc il y a ce rapport-là de finalement, c'est quelque chose qui lui a été beaucoup reproché, d'ailleurs entre autres aux États-Unis, de ne pas suffisamment partager sa pensée, de la rendre, et c'est quelque chose, enfin moi, que je pourrais aussi partager comme critique, de la rendre un peu mystique, comme si elle ne valait qu'en système, et que si on l'ouvre, ça l'affaiblit. Et donc, d'une certaine manière, au lieu de venir et de partager ses connaissances avec ses collègues, ce que tous les autres sont en train de faire, elle envoie ses émissaires, mais elle vient pas elle-même, et elle ne s'ouvre pas à la pensée critique. Et globalement, dans le parcours de toutes ces années-là, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont évincés parce qu'ils émettent une pensée critique, parce qu'ils remettent en question des points de son système. Et c'est des choses qu'elle a beaucoup de mal à entendre. Et ensuite, au moment où elle crée l'AMI, donc l'Association Montessori Internationale, elle le fait en parallèle à un congrès de la Ligue Internationale pour l'Éducation Nouvelle, donc au même moment, dans la même ville, mais c'est autre chose. Donc c'est comique. Enfin voilà, concrètement, c'est drôle, quoi, de se dire elle est là, mais elle est pas là, elle est avec les autres, mais en fait, elle est toute seule, en fait, elle fait son truc à elle en parallèle, au lieu d'essayer de mettre ses forces au service d'une idée collective.
Est-ce qu'elle refuse le débat ? Je suis pas sûr qu'elle soit dans le refus de débat, vu sa personnalité, mais c'est vrai que pour elle, ces congrès, c'est pas l'enjeu majeur, en tout cas, de diffusion de sa pédagogie. Alors, on sait qu'elle est attaquée. On donne souvent l'exemple de Freinet, qui l'attaque à partir de 1932. Ou Alexander Neil, par exemple, qui va créer l'école de Summerhill, qui l'attaque notamment sur l'éducation sexuelle, qui l'attaque aussi sur un penchant, on va dire, catholique, hein, ici. Freinet l'attaque aussi sur un côté du silence, en disant nos écoles, nous les enfants, bah oui, sont bruyants, oui, travaillent, oui, etc. Quand on rentre dans une école montessorienne, on a l'impression de ne pas avoir un bruit, on se croirait dans quelque chose de religieux. Bon, l'attaque est violente.
Le congrès de Nice fut tout entier dominé par le prestige de Madame Montessori. Un train spécial avait amené son matériel. De nombreuses salles lui avaient été réservées dans ce vaste palais de la Méditerranée. Des enfants idéalement sages et beaux, mais comme d'un autre âge dans leur fanfreluche rococo, évoluaient au milieu du matériel de luxe qui les sollicitait. Nous les regardions avec une sorte d'étonnement, manière en silence, avec dextérité, les surfaces et les cubes, et tous ces objets de l'immobilité qui conduisent parfois à des virtuosités de racines carrées ou de racines cubiques. Élise Freinet, 1968.
Je trouvais ça très intéressant qu'à un certain moment, Mario, son fils, quand il est plus âgé, à un moment, il veut défendre sa mère, et elle lui dit... Ne me défendez pas, mais travaillez. Je pense que pour elle, la meilleure des défenses, c'est le travail des enfants. Ce sont les enfants qui, par leur attitude de profonde concentration, sont les meilleurs témoins de sa pensée.
Avec Caroline Douki, Martine Gilsoul, Bérangère Colli, Sylvain Vagnon, Christina De Stefano, Léa Todorov, Andrea Marini, Charlotte Poussin. Extrait des lettres tirées du livre Maria Montessori, Une vie au service de l'enfant de Martine Gilsoul, en collaboration avec Charlotte Poussin. Extrait du journal intime de Maria Montessori, Traversée vers l'Amérique, 1913. Extrait des lettres de Maria Montessori, écrit à son père, Californie, 1915. Merci à Andrea Marini pour les lettres de Maria Montessori à Maria Marini et aux archives Maria Montessori d'Amsterdam. Un grand merci à l'AMI, à l'AMF et à Martine Gilsoul pour son aide si précieuse. Lecture Aurélia Petit, Audrey Lauten, Lise Combe, Éric Charon. Traduction Chahinez Rasgala. Lecture des traductions Daniel Koenigsberg. Documentaliste Annie Signoret, stagiaire Margarita Carlone-Minoya, prise de son Romain Luquiens, Cédric Châtelu, Manuel Couturier, mixage Éric Boisset, chargée de programme Anne-Vanessa Prévost, coordination Christine Bernard, responsable éditorial Emmanuel Laurentin, une grande traversée de Johanna Bedeau, réalisée par Marie-Laure Ciboulet. À suivre, quatrième épisode, Le temps de l'exil.